Brest, 20 septembre 1944. Année zéro. La ville est détruite à 80%. Ses habitants, pour la plupart évacués dans le Finistère, son autorité municipale anéantie à la Brestadique Arnaud. Tout est à faire, à reconstruire. 30 septembre 2024. Nous, collégiens de Sainte-Anne, partons à la découverte de ce passé brestois. Plusieurs sorties sur le terrain nous permettent d'entrevoir ce passé. Une visite à la Brestadique Arnaud, une autre au musée Mémoire 3945, une autre aux archives municipales de Brest, et enfin, au CDI, une rencontre exceptionnelle avec des témoins directs de ce passé, Olivier Dizarbois et ses amis des baraques de Brest. À travers des extraits saisissants, récits de libération, témoignages poignants, constats ahurissants, violences inouïes, nous allons vous présenter dans ce podcast notre plongée au cœur des événements marquants de Brest pendant les violences de l'histoire. Une question centrale apparaissant peu à peu dans nos esprits. Pourquoi transmettre aux jeunes générations l'histoire de la libération de Brest et de la refondation de la ville en 1945? Répondre à cette question nous permettra de comprendre son impact et l'importance du devoir de mémoire.
À Brestadique Arnaud, 29 septembre 2024.
Une guide de la ville de Brest nous accueille. Avec elle, nous partons à la visite de ce lieu de mémoire. Elle commence par nous raconter l'histoire de la construction du lieu et nous rentrons dans l'abri.
Ce qui est terrible pour Brest, eh bien c'est une ville qui va être bombardée pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, du printemps 1941 jusqu'à sa libération le 19 septembre 1944. Brest détient le triste record de la ville la plus bombardée d'espace pendant ce conflit. Environ 300 bombardements, plus de 600 alertes. C'est énorme. On va pouvoir construire trois grands abris dans le centre-ville de Brest. Le premier qui sera achevé, c'est celui de Recouvrance. Et pour le centre-ville de Brest, on va construire deux grands abris, l'abri Wilson et l'abri Sadique Arnaud, pouvait accueillir 2300 personnes. L'abri Sadique Arnaud a été construit dans un laps de temps d'environ 8 mois et il a été achevé en 1943.
Oh, regarde les portes blindées. Ça devait vraiment être bien sécurisé.
On sent l'émotion chargée de ce lieu.
La guide parle de la première manière dont l'abri est utilisé durant la Seconde Guerre mondiale et de la libération de Brest.
Alors, l'abri Sadique Arnaud a connu deux périodes d'utilisation différentes pendant la Seconde Guerre mondiale. La première période, eh bien, commence dès 1943, quand l'abri est achevé, jusqu'au siège de Brest de 1944. Pendant cette période, eh bien, l'abri est utilisé uniquement lorsqu'il y a des alertes aériennes. L'abri est entièrement vide, ça durait une heure maximum, et donc au bout d'une heure, eh bien, ses habitants étaient quittes et ils pouvaient retourner chez eux en remontant ce grand escalier.
Et tout change au mois d'août 44.
Il faut savoir que la ville de Brest, afin d'être libérée, a dû subir un siège. Un siège qui a duré environ 43 jours, du 7 août jusqu'au 18 septembre 1944. Des abris à Brest, eh bien, va être modifié. Un tiers de l'abri Sadique Arnaud pour la population civile, la partie haute où nous nous trouvons là en ce moment, et deux tiers pour les soldats allemands. Donc la ville va véritablement se vider de ses habitants et ne resteront à Brest que ceux qui devaient rester, c'est-à-dire les services administratifs, les services sanitaires, des infirmières, des médecins, les services religieux, et à cela va s'ajouter des Brestois qui ne savaient pas où aller, des Brestois qui préféraient rester. Donc à partir du 14 août, c'est environ 400 civils français qui vont venir s'installer dans un tiers de cet abri, mais cette fois-ci vont venir s'installer de façon permanente. Donc on va installer de l'éclairage, on va mettre des lits partout, tout le long du tunnel. Et donc ces Brestois qui vont vivre ici sans jamais pouvoir sortir de l'abri, sans savoir combien de temps va durer le siège, et ils vont rester ici dans des conditions épouvantables.
On se rend compte que les conditions de vie devaient être difficiles. Il fait très froid ici.
La guide parle des conditions de vie horribles, des poux, pas d'intimité et du froid.
Très vite, il n'y avait plus d'eau. Les canalisations avaient dû être détruites. Les WC étaient totalement saturés. Et en plus, les avisants étaient infestés de poux et de puces. Donc, en plus à des conditions de stress, d'angoisse que l'on pouvait avoir, le fait de rester dans cet abri, alors que la ville était bombardée de façon incessante à l'extérieur, voyez, les conditions d'hygiène étaient véritablement terribles.
Enfin, la catastrophe.
Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais on peut imaginer que de l'essence a dû couler par terre, une mauvaise manipulation, et qu'ensuite, soit elle ne s'arrête pas l'éteinte, soit une lampe à Détroit qui est tombée par terre. Toujours est-il que le carburant à trifeuc a rejoint les caisses des munitions, et tout cela a provoqué de terribles et violentes explosions. On est le 9 septembre 1944 et ces violentes explosions se sont virulées à 2h30 du matin, alors que tout le monde dormait ou du moins essayait de dormir. Ils vont réussir à dénombrer 373 corps, dont 40 corps d'enfants, dont on sait qu'il y avait des fesses entières dans l'abri. Mais au vu des restes de corps, eh bien, on n'a pas pu avoir un nombre exact de victimes. Donc on estime, ce n'est qu'une estimation, on estime qu'il y a eu environ 400 victimes. Et parmi ces victimes, du côté français, eh bien, on a pu identifier 331 personnes.
À la sortie, tout le monde est marqué par les événements du 9 septembre 1944.
On commence à mieux comprendre l'histoire de Brest, 80 ans, presque jour pour jour, après la catastrophe de l'abri Sadi Carnot. C'est horrible ce qui s'est passé. On n'en avait jamais entendu parler avant la visite.
Ce lieu de mémoire est vraiment important. Cette histoire devrait être connue de tous. Musée Mémoire, 3945, Plougonvelin, le 8 octobre 2024.
Lorsqu'on arrive, on est d'abord étonné par l'aspect de l'endroit. Nous sommes devant un énorme bloc de béton sur le sommet d'une colline, contrastant avec le paysage environnant. Un des médiateurs du musée, Gilles Dapriol, nous accueille.
Vous allez voir un objet qui a eu une histoire et qui a vécu. Et moi, il y a un des objets qui m'impressionne le plus, c'est la vareuse du commando Kiefer. Si vous lisez son témoignage, il dit « J'avais 20 ans, je fêtais mes 20 ans ». Quand j'ai débarqué en Hollande, je reste bloqué dans les barbelés. Donc, c'est-à-dire qu'il essaye de passer des barbelés, vous savez, c'est des fils avec les pics, et il reste coincé dans les barbelés, c'est-à-dire que son vêtement est coincé dans les barbelés. Et en fait, il se voit mourir, quoi, parce que ça tire autour de lui. Lui, il dit, mais c'est pas possible, je vais mourir là, à 20 ans, le jour de mes 20 ans, dans les barbelés, quoi, en Hollande. Et il arrive à se sortir, mais toute sa veste est déchirée. Et en fait, quand vous regardez la veste dans la vitrine, elle a été recousue sur ces côtés-là. Quoi. Vous voyez, c'est le vêtement, ou plutôt l'objet, c'est l'histoire de la personne. C'est ce qui reste de cette personne. Et en fait, nous, à travers l'objet, on s'en sert comme vecteur pour l'histoire, pour la mémoire de ces personnes.
Allons le découvrir. Pendant la guerre, ce blocos était très performant. De la presqu'île de Crozon à Ouessant, rien ne lui échappait. Ces quatre énormes canons d'une portée de plus de 30 km empêchaient tout navire ennemi de s'approcher de la rade de Brest. C'était une véritable forteresse. On pouvait y voir une activité phénoménale. Tout le monde était attelé à sa tâche. Surveillance, réparation, entretien, et surtout préparation à un éventuel débarquement allié.
Les conditions de vie des soldats étaient plutôt agréables comparées à celles des combattants des tranchées. Le blocos était équipé d'un système de chauffage, d'un système d'aération et de sanitaire. Ils avaient aussi des moyens de se divertir, en jouant aux cartes ou en faisant de la musique par exemple.
Les combats meurtriers s'enchaînent sans répit. Les survivants sont épuisés, mentalement et physiquement. Je me suis rapprochée d'un blessé pour tenter de savoir s'il y a d'autres blessés dans le coin. Il a l'air de dormir et j'ai beau le secouer et le questionner, il me regarde les yeux vides.
marmonnant des paroles incompréhensibles avant de s'endormir à nouveau. Les blessés sont adossés contre un talus et assis dans une tranchée, serrant leurs fusils dans leurs mains, endormis ou dans un état de stupeur. Ils ont enduré le maximum de ce que le corps humain peut supporter tout en restant en vie.
En parcourant le lieu, on a pu prendre conscience de l'ampleur de cette guerre, des victimes qu'elle a faites, les combats lors de la bataille de Brest. Ce musée nous aura appris le véritable coût d'une guerre. Archives municipales de Brest, 15 octobre 2024.
Des archives ? J'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre en venant ici.
À chaque visite, je pose la question, c'est quoi pour vous les archives ? Voilà, c'est à peu près la réaction que j'attends à chaque fois, c'est-à-dire un grand blanc et un grand vide dans les yeux en se demandant bien qu'est-ce que je vais pouvoir répondre. Oui ?
Bien, on stocke des documents.
Des documents, oui. C'est pas mal. Alors généralement, on parle de vieux documents, hein, des vieux papiers. Des vieux documents pour faire l'histoire. C'est généralement la réponse qui m'est faite. Les archives, c'est l'ensemble des documents produit ou reçu par une personne ou une institution dans le cadre de son activité normale, quelle que soit sa date, sa forme ou son support.
Pour moi, c'était juste des vieux documents rangés dans des étagères. Mais quand je regarde autour de nous, je me rends compte que c'est bien plus que ça.
Regarde cette affiche ici. Taisez-vous, méfiez-vous, les oreilles ennemies vous écoutent.
C'est dingue de voir ça en vrai. On apprend ça en cours, mais avoir le document sous les yeux, ça rend tout plus réel.
On est venu ici pour mieux comprendre l'après-guerre et on repart avec bien plus que des faits. Derrière chaque document, on a découvert des histoires, des morceaux de vie qui rendent cette période bien plus spéciale.
Oh, regarde sur cette photo, Brest est complètement détruite.
En plus, la ville est toute plate.
Ah, mais d'ailleurs, tu ne m'avais pas dit qu'on allait rencontrer des témoins de cette époque ?
Si, au CDI. J'ai trop hâte.
À Brest, dans les réserves, se cachent 8,5 km linéaires d'archives municipales. Ce sont autant de passés à travailler, à d'autres collégiens d'aller les découvrir. CDI du Collège Sainte-Anne, 20 novembre 2024.
Elle est trop chouette, la mamie Piplette, au milieu. Et c'est qui ce monsieur, à côté d'elle ?
C'est Olivier Desarbois, le président de l'association Les Amis des Baraques de Brest. Il est venu avec des personnes qui ont vécu dans les baraques juste après la guerre. On va mieux comprendre l'après-guerre, comment les Brestois se sont relogés dans cette ville complètement détruite.
D'accord, merci. Et maintenant, tais-toi, il commence à parler.
40 personnes arrivent sur Brest, donc il faut les reloger. Il faut déjà construire des baraques pour servant de commerce. Et une partie, alors, ces baraques-là sont récupérées sur les Allemands. Parce que les Allemands avaient aussi des baraquements, souvent en fibrociment. Pour loger leurs troupes un peu tout le long de la côte. Hein, tout le long de la côte, il y avait des postes allemands. Mais il y avait aussi des baraquements. Et ces baraquements, là, en partie, ont servi à construire les magasins, ce qu'on appelle la place de liberté maintenant, qu'on appelait les glaciers avant. Et donc, la première chose à faire, c'était nourrir ces gens-là, nourrir les travailleurs, faire tomber les pans de murs qui restaient encore debout pour faire le tri des briques, des cailloux. Et ça s'est étalé sur plusieurs. Plusieurs années, ouais, une année ou deux. Et aussi, au tout départ, à déminer également, il y avait énormément, évidemment, à plus d'un mois et demi de combat. Évidemment, il y avait des obus partout, des armes partout. Donc, il y a eu une période de, on va dire, d'octobre, 45, même d'année 45, a été préservée à déblayer, à continuer de déblayer. Par contre, le logement, avant que les baraques soient vraiment implantées, les gens qui avaient pu rentrer dans la ville malgré l'interdiction, se loger, certains, dans des caves. Ils aménageaient un peu, mais vous pensez bien que ce n'était pas très sain quoi, de vivre d'un temps, avec surtout quand il y avait des nouveau-nés, des jeunes enfants. Quoi. Donc, c'était difficile. Mais les gens, ils avaient que ça. S'ils n'étaient pas vrai, s'ils n'avaient pas de boulot non plus. Donc, ils étaient là, donc ils s'accrochaient à leur territoire. Et puis, effectivement, si leur maison ou leur immeuble avait été détruit, ils logeaient où ils pouvaient, quoi, dans les premières baraques, quand elles sont arrivées.
Mais ça a duré combien de temps, la reconstruction ?
Combien de temps ? On peut parler. Alors là, c'est une bonne question. On peut parler de reconstruction. Reconstruction, parce que souvent, on confond en construction tout ça, puis la reconstruction. Alors, ta reconstruction, effectivement, C'est étalé, je vais dire, jusqu'aux années 60 à peu près.
Mais monsieur, comment vivaient les habitants dans les baraques?
Dans les baraques commerciales, il n'y avait pas du tout de water. Il fallait aller tout au bout là-bas. Et là, il y avait un water commun pour tout arranger le baraque. 7 ou 8 magasins sûrement. Hein.
Le standard, non, si, il y avait des toilettes. Terango, par exemple, dans le petit quartier, là, il y a les toilettes. Alors, c'était dans le KGB. D'accord. Oui, pour aller donc de Kosovo, effectivement, la baraque arésienne, au mode point. Une baignoire dans les maisons, il n'y a même pas.
Vous preniez combien de douches par semaine?
Zéro, mais se laver entièrement, c'était une fois par semaine à Réalia, quoi.
Les baraques étaient chauffées?
C'était des rondelles, là. Il y avait un foyer pour chauffer, quoi, bien un plateau, et bien pour, voilà, c'est pour mijoter, en mettre à côté.
Comment supportiez-vous l'hiver dans les baraques?
En 1954, c'était l'été fou. L'hiver froid. C'était l'hiver froid. Puisque dans mon magasin, là-bas, dans la baraque, sur ma blouse de travail, je mettais un papier, un télégramme. Oui, un journal, quoi, pour empêcher que le poids prenne dans la poitrine, dans les seins. Ah oui, c'était froid. Hein.
Oh, c'est trop triste. Mais alors, vous vous amusiez quand même?
Ah ben, alors, beaucoup, je vous oublie, hein, les garçons, vous oublie. Le poké, c'est 3-4 3 billes en bas, et puis une kéramis, il met une bille dessus. Et puis, à 3-4 vous essayez de toucher le paquet. Si vous touchez, il aurait fait pareil. S'il y avait du cerceau, le cerceau, formidable, des traîneaux. Alors, les traîneaux, c'était fabriqué avec une planche de bois, enfin, une grande planche, mettons. Deux roues, avec des roues de marabis, sont crattées chez les garagiers. Voilà. Et puis, certains avaient un frein, mais ça ne servait à rien. Hein. C'était un seul levier. Hein.
On peut voir que les enfants vivaient mieux la vie en baraque que les adultes, car ils n'avaient pas conscience des événements.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette époque? Et quels sentiments vous éprouvez de nos jours en pensant aux baraques?
S'il y avait beaucoup d'entraide, on allait chez la voisine, demander un petit fond d'huile quand on avait besoin de faire une vinaigrette ou quelque chose. Quoi. Et on lui disait aussi, parce qu'ils ont leur amour propre quand on est comme ça, pauvre, quoi. Surtout si Madame Intel est là, elle laisse son tour, mais attend, ne demande pas à crédit, elle a son petit papier avec elle, quoi.
À Krum.
Et dans le nez de Krum. Vous avez vu les petits papiers? Ils ne demandent pas grand-chose. Hein. Quart de café, des quarts de verre, quart de... Et je vous paierai demain. Tout ça, c'est d'elles qui n'ont pas payé. Mais pour ma fiche, le bon Dieu me paiera.
La mémoire est propre à chacun. Monsieur Desarbois et Madame Léostig Ranou sont des passeurs de mémoire. Ils nous témoignent d'un passé brestois disparu, celui de l'après-guerre, de la reconstruction, de la refondation de la ville. Quelle histoire!
Nous voici au terme de notre aventure, celle de notre découverte de notre passé brestois. Ce passé de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Un passé de violence et de destruction qui nous était inconnu et dont nous espérons transmettre une part à travers ce podcast. Dorénavant, nous nous souviendrons des victimes de la Brissadi Carnot, des combattants de la libération, des hommes ayant œuvré à la refondation et la reconstruction de la ville, et enfin, des familles qui ont vécu dans les baraques. Notre projet autour de la mémoire et de la citoyenneté s'achève sur ces mots. Merci de votre écoute. Pour leur témoignage, pour leur temps, pour leur savoir, nous remercions Frédéric Vaillant, ancien journaliste et bénévole à Radio Neptune, qui nous a accompagnés dans la conception et l'enregistrement du podcast. Laurence Thomas, guide de la ville de Brest. Gilda Priol et les frères Coquille du musée Mémoire 3945. Hugues Courant, des archives municipales de Brest. Olivier Desarbois et Denise Léostic-Ranou, ainsi que toute l'association des Amis des Baraques de Brest. Leur témoignage nous a été particulièrement précieux. Et évidemment, merci beaucoup à notre professeur documentaliste Madame Jor et notre professeur d'histoire-géographie, Monsieur Kerdreau.